Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour l'invitation et puis pour ce beau colloque. Il manque la filiation académique. Donc, je suis à la Sorbonne Université, de même que Élie, et à SND également, qui est une UMR. La question qu'on va discuter, je vais moi aussi m'intéresser à cette question qui est apparue beaucoup en fait aujourd'hui, qui est la question de l'interprétabilité des IA. Et en fait, on va essentiellement parler des large language models, mais en revenant quand même un petit peu en arrière, parce que ce sont des modèles qui sont des modèles connexionnistes. En fait, pour contextualiser un petit peu la discussion, je vais revenir, au moins dans mon introduction, à des interrogations un petit peu plus anciennes dans la philosophie de l'intelligence artificielle. Donc, la première chose que je voudrais souligner, mais beaucoup l'ont noté déjà, c'est que nous utilisons donc très fréquemment, pour décrire les comportements des IA et singulièrement des modèles massifs de langage, un vocabulaire qui est normatif et intentionnel. Là, j'ai pris quelques exemples d'articles qui viennent de paraître, en fait, de 2025, donc qui mentionnent la connaissance, le fait de penser, le fait de dire, le fait de raisonner. Donc, un vocabulaire qui présuppose que ces modèles ont des états intentionnels. Alors, pour rappel, ce qu'on appelle en philosophie un état intentionnel, c'est un état qui est doté de signification. Et l'idée, c'est que précisément ces significations vont avoir une pertinence dans certains processus, par exemple dans des raisonnements. Donc, ces exemples pourraient être multipliés. Les auteurs présupposent donc dans tous ces exemples que il y a des contenus qui peuvent être manipulés et notamment donc dans des inférences. Et évidemment, le problème qui se pose, qui n'est pas juste un problème philosophique, je pense que c'est un problème qui se pose aussi dans l'industrie en fait, c'est de savoir si cette tendance qu'on a est justifiée ou est-ce que peut-être une autre interprétation possible, c'est qu'elle reposerait sur une illusion anthropocentrique en fait. Hein. L'idée, c'est qu'on attribuerait peut-être à cause de notre théorie de l'esprit à ces programmes des états qu'ils n'ont pas ou des capacités qu'ils n'ont pas. Alors, c'est d'ailleurs une interrogation qui est très ancienne. Alors, dans ma deuxième version, j'avais mis une petite image ici, mais je voudrais juste rappeler qu'en 1984, donc c'est quand même assez ancien, David Lodge, l'écrivain dans Small World, je crois qu'il décrivait un professeur aux prises avec une IA, Elisa, qui date des années 60, et le professeur n'arrivait pas à ne pas lui attribuer d'état intentionnel. Et alors, ça peut paraître complètement démodé, parce que Elisa, c'est un programme qui est très ancien. C'est pas si démodé que ça, en fait. Récemment, on a fait passer le test de Turing à des sujets, et on a confronté des sujets à différents modèles, dont Elisa, vraiment le plus frustre. Et en fait, 22% des sujets confondent Elisa avec un être humain. Donc 22% quand même, hein. Alors que je pense que personne de très sérieux ne voudrait attribuer des états intentionnels, évidemment, à un tel programme. Alors, voilà, c'est cette question de l'interprétabilité, de la question de savoir si nous nous illusionnons ou pas lorsque nous employons un vocabulaire intentionnel. Cette question est liée aussi, et là, ce n'est pas juste une question philosophique, encore une fois, c'est une question technologique ou scientifique, à ce qu'on appelle le programme de l'IA interprétable, qui est un programme de recherche qui vise à expliquer, à prédire les comportements de certains algorithmes en essayant d'identifier des inférences ou des mécanismes sous-jacents aux décisions que prennent ces programmes. Et l'idée centrale de ce programme est de ne pas considérer un algorithme comme une boîte noire. Alors, c'est important pour toutes sortes de raisons. Ça mériterait un exposé à part entière, en fait. Notamment lorsqu'il s'agit de justifier les décisions qui sont prises parfois par ces programmes. Donc, ça peut être très utile. Si on veut justifier les décisions, de comprendre, en fait, comment les décisions étaient prises. Alors, un point que je voudrais souligner ici, c'est que dans ce programme de l'IA interprétable, on n'est pas forcé d'attribuer des états intentionnels au programme. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Hein. On peut voir le programme comme un mécanisme complexe, mais qu'on est quand même capable de comprendre, qui n'est pas un mécanisme intentionnel. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est probablement même l'approche dominante, en réalité. Donc, essayer de décrire des mécanismes. Et encore une fois, les mécanismes ne sont pas nécessairement des mécanismes intentionnels. Et puis, il y aurait peut-être une approche plus ambitieuse ou plus anthropocentrée qui consisterait à penser que ces mécanismes sont intentionnels. Alors, cette question, évidemment, dans la philosophie de l'intelligence artificielle, elle a été soulevée dès l'apparition... Alors, l'apparition... Peut-être le développement, notamment en sciences cognitives, de modèles connexionnistes, notamment dans les années 1980, donc c'est déjà assez ancienne. Pourquoi ? Parce que les modèles connexionnistes ressemblent beaucoup à des boîtes noires. Précisément, il n'est pas toujours facile d'interpréter leur comportement et de l'expliquer de manière mécaniste, par des mécanismes. Et ceci en raison de deux propriétés qui sont très souvent citées donc dans la littérature philosophique, le caractère massivement distribué de l'information qui est peut-être représenté dans ces modèles, et l'absence de distinction entre le stockage de cette information et sa manipulation par des règles. Donc c'est pour ça que traditionnellement on considère que l'IA classique, que cette question de l'interprétabilité est plus facile à résoudre dans l'IA good old-fashioned AI, hein, l'IA classique, que dans l'IA connexionniste. Dans l'IA classique, ou dans sa version philosophique, qui est l'hypothèse du langage de la pensée, les représentations sont facilement identifiables. Il s'agit de symboles ayant des formes distinctives, et ces symboles sont manipulés par des règles qu'on peut formuler explicitement. Mais ce n'est pas le cas dans les réseaux de neurones distribués. L'information stockée n'est en général pas considérée comme située à un endroit précis dans le réseau, mais plutôt comme étant liée au pattern des poids des différentes unités qui constituent ce réseau. Donc ça, je pense que ce sont des choses bien connues, mais ça explique pourquoi... ce problème est particulièrement important pour ces modèles-là. Et en fait, dès les années 80, cela a donné lieu à des positions assez radicales dans la philosophie de l'intelligence artificielle, notamment parce qu'en fait, je vais introduire trois distinctions qui vont correspondre à trois niveaux possibles d'intentionnalité. Aucune intentionnalité, une intentionnalité, mais pas primitive, et je vais expliquer ce que ça veut dire, et troisièmement, une intentionnalité primitive. Donc trois niveaux, et je dis tout de suite aussi quelle sera la conclusion de notre travail. La conclusion de notre travail, c'est que le débat intéressant est probablement entre les deux dernières positions. La position que je vais présenter maintenant, elle est intéressante historiquement, mais je ne pense pas qu'elle puisse être réellement défendue pour les modèles massifs de langage. Donc la première distinction, c'est une distinction entre l'éliminativisme et l'interprétationnisme. L'éliminativisme, c'est une position qui consiste à soutenir qu'attribuer des états intentionnels à un modèle connexionniste n'a pas de pertinence explicative. Et l'interprétationnisme, dans cette formulation très très générale, c'est juste la négation de l'éliminativisme. Ce qui est assez frappant, c'est que dans les années 80, certains des premiers philosophes qui se sont intéressés au connexionnisme défendaient l'éliminativisme. Alors, si on veut aujourd'hui défendre l'éliminativisme, pour quelques modèles que ce soit, hein, là ça vaut pour tous les modèles, pas simplement les modèles massifs, typiquement, l'argument que vont utiliser les sceptiques, disons, c'est d'identifier une condition nécessaire pour attribuer des états intentionnels à certains systèmes et de trouver un argument pour soutenir que cette condition n'est pas satisfaite pour les modèles qu'on discute et que donc ces modèles n'ont pas d'état intentionnel. Et là, la condition peut renvoyer à des concepts très philosophiques, donc on peut être très très ambitieux, par exemple, on peut dire que ces modèles ne sont pas conscients et qu'il est nécessaire d'être conscient pour avoir des états intentionnels. Certains philosophes pensent ça. Bon, là, on a un argument très fort pour dire, voilà, pour défendre l'éliminativisme. C'est une question qui a été pas mal discutée dans les deux exposés précédents. Dire que les modèles en question n'ont pas de psychologie, hein, si on les prend globalement, que ce ne sont pas des agents, ils ne sont pas capables réellement d'agir, de percevoir, et pour cette raison, et que c'est nécessaire d'avoir une psychologie pour avoir des états intentionnels. Voilà un argument pour dénier que ces modèles aient des états intentionnels. Ou un argument qu'on trouve aussi souvent, qui est un petit peu l'héritier de la chambre chinoise de Searle, l'argument que Daniel Handler appelle dans son magnifique livre, l'argument de la cécité sémantique, c'est une expression que j'aime bien. Donc, l'idée de dire, voilà, il faut avoir une compréhension du sens pour vraiment avoir des états intentionnels, mais comme le montrent différents arguments, l'argument de la chambre chinoise, l'argument de Bender et Kohler, très souvent cité, de 2020, voilà, ces modèles n'ont pas de compréhension du sens, donc ils n'ont pas d'état intentionnel. Alors, tous ces arguments sont intéressants, mais je dis tout de suite que je ne vais pas les discuter, ils me paraissent un petit peu trop généraux. J'avoue que je suis très sceptique par rapport à ces arguments, qui me paraissent situés à un niveau de généralité probablement un peu trop haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un argument peut-être un petit peu plus modeste et encore une fois qui est assez ancien, qui est un argument... Alors, il m'intéresse parce que je pense qu'il est plus complètement d'actualité, comme on va essayer de le montrer. Donc, un argument qui était défendu à la fin des années 80 par Ramsey, Stitch et Garonne. L'idée, c'est de partir précisément du caractère massivement distribué de ces modèles pour en conclure qu'ils ne sont pas réellement dotés d'intentionnalité, ou du moins, je pense qu'il faut être prudent dans la formulation, que l'intentionnalité dont ils sont peut-être dotés n'a pas de pertinence explicative. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, l'argument, en fait, est très simple. C'est un argument qui consiste à dire que les nœuds de ces modèles... les unités qui opèrent les calculs sont subsymboliques et qu'elles n'ont pas à ce titre d'interprétation symbolique transparente. Alors, ça n'implique pas qu'elles n'ont pas d'interprétation possible, peut-être qu'on peut leur attribuer un pouvoir représentationnel, mais ce pouvoir représentationnel ne va pas nous permettre d'articuler des explications de leur comportement. Alors c'est un argument qu'on trouve donc dans cet article de 89, c'est un argument qu'on trouve chez Paul Churchland également en 98. Et l'idée, c'est que le caractère holiste de l'attribution d'intentionnalité à un modèle connexionniste rend cette intentionnalité très difficilement interprétable pour notre psychologie naïve, qu'en gros, les unités n'ont pas un sens qui serait de toute façon compréhensible pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser dans nos explications. Et que donc, à cet égard, nos explications, disons, anthropocentriques échouent, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qui se passe réellement dans ces programmes, d'après ces auteurs. Alors, je vais peut-être citer toutes ces citations, mais bon... L'idée, c'est que c'est cette idée de sémantique d'état, que le véhicule premier du contenu sémantique, c'est un pattern d'activation de l'assemblée neuronale, et que finalement, le pouvoir représentationnel, si on veut l'attribuer à quelque chose, il faudrait l'attribuer à des vecteurs dans cet espace d'état. D'où d'ailleurs, dans la littérature philosophique, le fait que maintenant, on trouve donc des articles qui posent le problème de l'attribution de sens à des vecteurs. Bon. On va soutenir dans la suite d'ailleurs de cet exposé que c'est probablement pas la meilleure manière de voir les choses. Mais en tout cas, si on voit les choses comme ça, je pense qu'il y a quand même là un argument très fort en faveur de l'éliminativisme, qui est l'argument que ça paraît extrêmement difficile d'attribuer effectivement des contenus sémantiques à ces vecteurs qui soient interprétables pour nous, en fait. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire, bon, mais oui, il y a quand même des états intentionnels, mais c'est juste que ces états intentionnels vont pas avoir une pertinence réellement explicative pour ce projet qui consiste à interpréter le fonctionnement des IA, que donc ça n'a pas un grand intérêt à cet égard. Alors, je pense que dans cette discussion philosophique sur l'interprétabilité des IA, alors bon, d'ailleurs, c'est vraiment pas une idée, c'est pas original du tout de dire ça, je pense que c'est probablement un des points sur lesquels il y a un consensus aujourd'hui, l'apparition des modèles massifs a complètement rebattu les cartes. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce sont des modèles donc pour lesquels le langage a une importance tout à fait spécifique. Donc vous savez que dans l'architecture de ces modèles, on découpe des mots en unités linguistiques qu'on appelle des tokens, qu'on associe ensuite un vecteur à chaque token, et la phase d'entrée est transformée du coup en une séquence de vecteurs. Alors, il est important de vraiment prendre conscience de la, comment dire, de la dimension en fait ici de ces modèles, hein, puisque donc cette séquence passe par ce qu'on appelle un transformer qui évalue les relations grammaticales entre les mots de la phrase et qui ensuite applique des transformations, et un logiciel comme ChatGPT utilise 96 transformers avec chacun 1,2 milliard de paramètres. Donc vous voyez un nombre extrêmement massif de paramètres. Donc en fait, si on utilise la métaphore de l'espace d'état, on a des espaces qui ont un très très grand nombre de dimensions. Mais la chose importante, c'est que dans le fonctionnement de ces modèles, le sens, ou en tout cas les symboles linguistiques, jouent vraiment un rôle central. Alors je vais passer cette diapo sur l'entraînement, mais l'entrée... alors. Au sens strict, du point de vue littéral, l'entrée comme la sortie de ces modèles, c'est juste des séquences, des listes de nombres. Néanmoins, ces listes peuvent être converties en texte par une analyse lexicale. Et donc, il est assez naturel de considérer que les inputs de ces modèles sont des textes et que c'est également le cas des outputs. Alors, pourquoi est-ce que ça rabat les cartes du point de vue philosophique? Je pense pour une raison vraiment très simple. C'est que maintenant, si on s'intéresse à la question de l'intentionnalité, une chose qui, à mon avis, n'est pas très controversée, sur laquelle on devrait pouvoir se mettre d'accord assez facilement, c'est que ces entrées, ces sorties, sont, elles, dotées de propriétés intentionnelles. Les textes de langue naturelle humaine, ce sont des symboles qui ont une intentionnalité. Hein, d'ailleurs, en philosophie de l'esprit, lorsqu'on parle d'intentionnalité, on parle aussi souvent de la référence des états mentaux. Et le modèle, en fait, qu'ont utilisé les philosophes, c'est vraiment un modèle linguistique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Fodor, un des principaux acteurs dans les débats, dans l'émergence de la philosophie modèle de la philosophie moderne de l'esprit, si Fodor utilise la métaphore du langage de la pensée, et s'il compare les états mentaux dotés de propriétés intentionnelles à des symboles linguistiques. Donc en fait, au minimum, l'intentionnalité joue un rôle crucial, au minimum, dans les entrées et dans les sorties. Et la question, alors pourquoi est-ce que ça rabat les cartes? Parce que du coup, ça pourrait donner un argument relativement simple pour dire, mais écoutez, si on a des entrées qui ont des propriétés intentionnelles, on a des sorties qui ont des propriétés intentionnelles. Et ça, c'est pas vraiment. On est d'accord là-dessus. Est-ce que déjà, ça devrait pas nous conduire à, ça devrait pas suggérer que peut-être les états internes du programme qui permettent de transformer ces entrées en sorties ont eux aussi des propriétés intentionnelles. Alors certes, le point de vue éliminativiste continue à être défendu dans la littérature, donc il y a des auteurs qui continuent à défendre un point de vue qui est extrêmement sceptique. Alors notamment, je pense, l'article le plus cité, il a déjà été cité plusieurs fois, Bender et Kohler 2020, qui considère que, les sorties du programme ne sont pas vraiment des textes doués de signification, qu'on leur attribue une signification, mais qu'il s'agit d'une illusion. Pour Bender et Kohler, les LLM n'ont ni de contact perceptif avec le monde extérieur, ni de compréhension des intentions communicationnelles des agents, et pour ces raisons, ils ne comprennent pas les significations et n'en produisent pas. Ok ? Une suggestion fréquente dans la littérature, d'ailleurs, est que les LLM ne peuvent pas réellement produire de références, et donc, à partir de là, de significations, qu'ils ne pourront en produire que si leurs états étaient fondés sur des relations avec le monde extérieur. Et c'est vrai que en philosophie, beaucoup d'auteurs défendent ce qu'on appelle l'externalisme sémantique, qui est la position d'après laquelle, afin d'avoir des états intentionnels, un système doit entretenir un certain type de relation causale avec son environnement. Alors là, si on adopte ce point de vue, on pourrait penser qu'étant donné que ces relations causales pertinentes sont absentes dans le cas des LLM, ces modèles n'ont pas d'état intentionnel et que les textes qu'ils produisent ne sont qu'en apparence signifiants. Alors, moi je voudrais d'emblée dire qu'il me semble qu'on peut écarter ces arguments tout en défendant une interprétation très modeste en fait des LLM. Et À cet égard, je vais utiliser la position d'une psychologue, donc ce n'est pas une informaticienne, Alison Gopnik, mais elle a, dans plusieurs publications, défendu une interprétation des large language models que je trouve intéressante parce qu'elle est à la fois assez minimaliste, mais en même temps, elle n'est pas éliminativiste. Et je trouve que donc elle donne des outils intéressants pour voilà, faire des distinctions. Donc en fait, quelle est sa position et quelle est son idée? L'idée, c'est qu'il est indiscutable que les ensembles de données sur lesquels les LLM sont entraînés, ainsi que les requêtes qui leur sont soumises, mais même les outputs, sont dotés de signification. Donc il ne s'agit pas d'une position éliminativiste, parce que je pense que, enfin en tout cas dans mon interprétation, moi dans l'interprétation que je fais de sa position, mon interprétation, c'est que les sorties, les productions, sont dotées de signification. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'implique pas nécessairement que les états internes de ces programmes sont intentionnels. Pourquoi ? Bah parce qu'on sait qu'en fait, il existe des technologies, parfois assez simples d'ailleurs, qui permettent de conserver, de reproduire ou de transformer des représentations dotées de signification. Et les technologies que cite Gopnik sont assez anciennes. L'imprimerie, par exemple, la conservation en bibliothèque, la reproduction des textes, par exemple par la photocopie, la traduction automatique. Alors, notez que lorsqu'on photocopie un article, il ne semble pas tellement... Enfin, c'est un petit peu difficile de nier que le texte photocopié ait une signification. Mais ça n'implique pas, bien sûr, que les états internes du photocopieur soient intentionnels. Donc vous voyez qu'on peut assez facilement donner des exemples de technologies dont les inputs et les outputs sont dotés de signification. Et encore une fois, donc, le point de vue ici n'est pas éliminativiste. Mais pour autant, sans s'engager en tout cas à l'existence d'états intentionnels. Donc dans plusieurs articles, Alison Gopnik et ses co-autrices comparent les LLM à de telles technologies culturelles de transformation de texte. Et alors, je vais peut-être vous lire cette citation. Les systèmes d'IA sont ce qu'on pourrait appeler des technologies culturelles comme l'écriture, l'imprimerie, les bibliothèques, les moteurs de recherche sur l'Internet ou même la langue elle-même. Il s'agit d'une nouvelle technique de transmission d'informations d'un groupe de personnes à un autre. Se demander si ChatGPT-3, ou, bon, c'est un peu ancien, mais est intelligent ou connaît le monde revient à se demander si la bibliothèque de l'Université de Californie est intelligente ou si une recherche sur Google connaît la réponse à vos questions. Donc voilà le point de vue de Gopnik. Alors encore une fois, pour moi, ce n'est pas un point de vue éliminativiste. Il ne s'agit pas de dire que, notamment, qu'on commet une erreur lorsqu'on attribue une signification aux productions de ces modèles. C'est un point de vue qui est... Alors moi, je vais reprendre cette appellation, j'avais appelé cette position le bibliotechnicisme. C'est un terme qui a été inventé par Lederman et Maovald dans un article récent. Donc l'idée ici, c'est que les agents humains possèdent des états mentaux dotés d'intentionnalité primitive ou originale. Ces états peuvent causer des actes de communication ostensibles inférentiels, par exemple, et qui permettent d'attribuer du sens aux symboles. Donc l'idée, c'est que si nos symboles linguistiques ont un sens, c'est parce que nous avons, nous, des états mentaux qui ont un sens au départ. C'est parce que nous avons des pensées dotées de sens, douées de sens, que nous pouvons par convention attribuer un sens au symbole linguistique que nous utilisons. Par exemple, que nous pouvons attribuer un référent à un nom propre lors d'un baptême, pour reprendre un exemple très célèbre du philosophe Saul Kripke. Des systèmes sans agentivité, cependant, peuvent également avoir des états intentionnels à partir du moment où l'intentionnalité de ces derniers est dérivée de celle des symboles linguistiques humains. Donc le cas le plus simple, c'est l'intentionnalité de l'output du système. Mais notez qu'on pourrait aussi penser qu'il y a des états internes qui sont dotés d'intentionnalité, mais d'une intentionnalité dérivée et pas d'une intentionnalité primitive. Donc ici, l'idée, ce serait de plutôt comparer ces modèles à des bibliothèques. Alors, on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué quand même que des bibliothèques, mais... Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce qu'en fait, derrière le concept de bibliothèque, il y a le concept essentiellement de conservation, mais on pourrait aussi imaginer qu'il y ait des transformations. Qu'il y ait des transformations, mais sans création pour autant d'intentionnalité originale. Voilà. Hein ? Donc des technologies de conservation du sens, de transformation du sens, mais pas de production d'un sens nouveau. Donc comparer plutôt ces technologies à des bibliothèques plutôt qu'aux bibliothécaires. Voilà, donc le bibliothèque. Alors, à cet égard, un débat que je trouve intéressant, et c'est mon deuxième, enfin, c'est les niveaux 2 et 3, disons, d'intentionnalité, l'intentionnalité qu'on peut attribuer à ces modèles dans un cadre bibliotechniciste, où on considère que ces programmes peuvent effectivement avoir des états intentionnels, donc il ne s'agit pas d'une position éliminativiste, mais que cette intentionnalité est dérivée, entièrement dérivée. Et puis, ce que j'appellerais le représentationnalisme, peut-être le terme est mal choisi, je ne sais pas, hein, mais qui est la position que certains modèles ont des états intentionnels dotés d'intentionnalités primitives. Et là, on va voir que les arguments qui défendent la position représentationniste, à cet égard, souvent sont des arguments qui s'appuient sur l'idée que ces programmes sont capables de construire des modèles du monde. Pas simplement de transformer des symboles, mais vraiment de produire quelque chose, en quelque sorte, de nouveau. Alors, la raison pour laquelle la position bibliotechniciste doit être prise au sérieux, à notre avis, c'est que c'est une position, bah d'abord, c'est une position intéressante. Finalement, elle permet d'expliquer nos intuitions. On a l'intuition que les outputs de ces modèles sont doués de sens, mais le bibliotechnicisme explique complètement cette intuition. Donc, ce n'est pas une position contre-intuitive. Donc, lorsqu'on parlait de perroquet, donc, perroquet, alors, en fait, j'aime pas tellement cette image en réalité parce que, en fait, il existe des technologies antérieures au LLM en linguistique computationnelle qui rentrent complètement dans le cadre explicatif bibliotechniciste, qui correspondent à la position bibliotechniciste, et qui néanmoins permettent d'obtenir des résultats déjà assez impressionnants. Alors. Lederman et Maovald, par exemple, dans l'article que j'ai cité, soutiennent que les modèles n-gram produisent des textes nouveaux, dotés de significations. Donc les modèles n-gram, c'est des modèles qui sont antérieurs aux modèles massifs de langage, qui sont plus simples. Ce n'est pas des modèles avec des transformers. Ils sont donc, encore une fois, beaucoup plus simples. Ils continuent à être utilisés dans certains domaines, je crois notamment en traduction automatique. Mais il est très plausible d'interpréter le fonctionnement de ces modèles dans un cadre bibliotechniciste. Il faudrait rentrer dans les détails, en fait, ce qu'on ne peut pas faire ici, mais l'idée, c'est que c'est ce type de modèle extrait des gabarits, des templates, de l'ensemble de données, les applique à une entrée pour produire un texte nouveau. Mais essentiellement, si vous voulez, il s'agit vraiment d'une technologie de transformation de textes qui sont donnés en entrée. Alors certes, c'est des transformations beaucoup plus complexes que celles qui sont effectuées par une photocopieuse, mais encore une fois, le modèle bibliotechniciste s'applique ici bien. Donc la meilleure explication du comportement du modèle, en tout cas, ne nécessite pas de lui attribuer des états intentionnels, des représentations émergentes, des modèles du monde. Absolument pas. Alors, c'est une chose de dire que ce cadre explicatif fonctionne pour les modèles n-gram, mais évidemment, les modèles massifs de langage sont beaucoup plus complexes, donc est-ce qu'on peut appliquer ces idées au modèle massif de langage? Ben en fait, je pense que c'est une question pertinente. Voilà, c'est le genre de question qu'on devrait se poser. Je pense qu'il y a des arguments pour et des arguments contre, en fait. Alors, vous allez voir qu'on va être très très lâche. Hein. On ne va pas vraiment prendre position dans ces débats parce que simplement notre opinion, c'est qu'on n'a pas vraiment les connaissances aujourd'hui pour réellement pouvoir prendre position de manière très raisonnable. Mais il y a des raisons de penser, certains auteurs en tout cas suggèrent dans des publications récentes que les LLM ne sont rien d'autre que des n-gram sous stéroïdes, pour reprendre le titre d'une vidéo notamment, donc des n-gram plus performants. Certaines recherches récentes suggèrent que le comportement des transformers peut être décrit et expliqué à l'aide des principes statistiques utilisés pour les modèles n-gram, notamment un article récent de Nguyen, Understanding Transformers via n-gram Statistics. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser des modèles statistiques, pas des modèles sémantiques, donc on abandonne complètement cette idée qu'il y aurait des représentations du monde, l'équivalent d'une sorte de base de données qui émergerait. Non, 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 on va essayer d'expliquer l'output simplement, un peu comme on ferait pour un système de physique statistique. Et ça marche quand même bien pour certains LLM, alors pas pour tous, hein, pour certains, d'après Nguyen. Donc son résultat, c'est qu'entre 79% et 68% de certains de ces modèles peuvent être expliquées de cette manière. Alors, on peut voir ça de façon optimiste en disant que c'est une grosse proportion, ou de manière pessimiste en disant oui, mais il reste beaucoup de ces comportements qui ne sont pas explicables. Alors, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que le bibliotechnicisme demeure une position plausible, qu'on ne peut pas l'écarter d'un revers de main, en disant qu'il est évident qu'il y a des représentations émergentes, y compris à l'ère des LLM. En fait, ce que ça suggère pour moi, c'est qu'il y a différentes explications plus intéressantes des comportements de ces modèles, et que ce qu'il faut faire, c'est choisir celles qui sont les meilleures. Et que pour le moment, la réponse, ce choix n'est pas si facile que ça à opérer. La réponse n'est pas si claire que ça. Est-ce qu'il existe des arguments décisifs contre le bibliotechnicisme? Lederman et Maoval, dans leur article, proposent un argument que je trouve amusant. Est-ce qu'on peut le discuter? Oui, quand même, il reste du temps. Un argument que je trouve amusant, qui est l'argument de la nouvelle référence. Les auteurs donnent à ChatGPT, alors moi aussi, donc je vais prendre des exemples rigolos, des instructions qui débouchent sur la création de nouveaux noms. Par exemple, pour une figure historique connue. Donc, par exemple, ils vont, dans le prompt, demander à ChatGPT-4 de renommer, en fait, Robespierre. Donc, ils vont décrire Robespierre. Et effectivement, le programme le renomme et l'appelle Marion Starlight. Donc, il invente un nouveau nom. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans un cas comme ça, il y a réellement une intentionnalité primitive, parce que ça ressemble beaucoup à un baptême, en fait. Ça ressemble à l'attribution d'un nouveau nom à un individu qu'on connaît déjà, mais donc la création d'un symbole nouveau doté d'une intentionnalité nouvelle. Les occurrences de Marion Starlight réfèrent à Robespierre, mais cette référence n'est pas dérivée à partir des conventions humaines. Il ne s'agit pas, il n'y a nulle part, à ma connaissance, personne avant ChatGPT-4 n'avait appelé Robespierre Marion Starlight. Alors, c'est l'argument de la référence nouvelle. Alors, je trouve cet argument très peu convaincant, personnellement. Je ne le trouve pas convaincant du tout. Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas convaincant du tout? En fait, la question, c'est est-ce qu'il s'agit réellement d'un acte de baptême? Est-ce qu'il s'agit réellement de l'introduction d'un nouveau symbole? Ça me paraît assez douteux. Ça me paraît douteux parce qu'il paraît douteux de toute façon d'attribuer des intentions communicationnelles au programme. On n'a pas vraiment de raison de le faire, en fait, en l'occurrence. Or, il semble que pour créer un nouveau symbole, il faut une condition nécessaire. Ça semble être d'avoir des intentions communicationnel. Alors, vous me direz peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une théorie peut-être plus inclusive de ce que c'est qu'un acte de baptême. Encore une fois, peut-être, ça ne me paraît pas très convaincant. Donc, personnellement, c'est un argument qui est intéressant, qu'on ne considère pas comme, en tout cas, pas comme décisif. On pourrait imaginer qu'en fait, le symbole tel qu'il apparaît dans l'output n'est pas doué de sens. Que c'est les interprètes qui lui donnent un sens, à partir du moment où il l'interprète. Mais que le baptême est effectué implicitement par des êtres humains, mais pas réellement par le programme. Et ça me paraît une manière finalement plus modeste, mais plus plausible d'interpréter ce qui se passe, personnellement, ici. Est-ce qu'il y a d'autres arguments contre le bibliotechnicisme? Bien sûr, évidemment. Les arguments qui existent, je pense qu'ils ont d'ailleurs été aussi un petit peu abordés, notamment par Daniel, très bien ce matin avant nous, c'est les limites explicatives de ce modèle. Nguyen lui-même, dans son article, souligne que certains comportements des LLM sont difficilement explicables par l'application des règles du type de ceux des modèles n-gram. Je cite, en fait, l'article, hein, enfin c'est une traduction, mais « Une instruction consistant à exécuter une tâche non triviale, par exemple écrire un poème de 30 lignes sur les mathématiques qui rime, nécessite, et là c'est vraiment Nguyen lui-même, qui est pourtant plutôt un défenseur d'une approche très statistique, il nécessite une compréhension conceptuelle de haut niveau du langage qui va au-delà des simples associations littérales au niveau des tokens entre le contexte et les données d'entraînement. » Cela dit, la conclusion de Nguyen est très très nuancée dans l'article. Il dit voilà, c'est une difficulté explicative, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on ne va pas réussir à trouver des explications dans le cadre purement statistique. C'est une difficulté explicative de cette approche statistique. D'accord. Alors, ça c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on pourrait appeler l'idée centrale du représentationnalisme. Et moi aussi, je vais citer M. Sutskever, il y a. quelle est cette idée centrale? L'idée, c'est que prédire les tokens en tenant compte du contexte de la façon la plus appropriée possible ou la plus efficace possible suppose de faire émerger un modèle du monde, de construire un modèle du monde. C'est ce que dit Sutskever dans ce texte, qui est issu d'une interview, en fait. Hein, donc c'est un texte oral. Il dit « Predicting the next token well means that you understand the underlying reality ». Donc vous devez, pour prédire les tokens, comprendre la réalité sous-jacente qui a conduit à la production de ce token. Et il ajoute « It's not statistics ». Mais le texte est assez bizarre parce qu'il dit « It's not statistics », et il ajoute « Like it is statistics, but what is statistics ?» C'est quand même... Alors, moi, juste ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est pas un argument, ça. Hein. C'est, on pourrait dire, une intuition ou une idée. Peut-être qu'il a raison. C'est-à-dire, peut-être qu'effectivement, la meilleure manière d'opérer ces prédictions, c'est de construire des modèles, des représentations de la réalité extérieure. C'est pas sûr du tout, d'accord ? C'est pas sûr du tout, et on a vu qu'en tout cas, pour certains modèles avec transformeurs, jusqu'à 80% de leur comportement pouvait être expliqué autrement. Bon, donc... La charge de la preuve est plutôt du côté du représentationnaliste, probablement. Alors, si on veut aller dans le sens représentationnaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais terminer l'exposé avec quelques indications, peut-être quelques suggestions, ou en tout cas, voilà, je vais essentiellement soulever des problèmes d'ailleurs. Hein. Y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut trouver des véhicules représentationnels adéquats. Parce qu'on a vu au début de ce talk que les fameux vecteurs, il y a quand même de fortes raisons de douter que ce soit des contenus représentationnels adéquats. Là, ça risque de ne pas marcher du tout. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Quels sont les véhicules représentationnels? Et deuxième problème, alors ça, c'est un problème qui est très familier aux philosophes de l'esprit ou aux philosophes des sciences cognitives, comment les contenus de ces véhicules représentationnels pourraient-ils être attribués d'une manière qui soit justifiée, qui soit fondée? C'est aussi une question difficile. Je vais dire plus de choses sur la première question que sur la deuxième, en fait. Donc, quel véhicule pour les représentations putatives? Donc, si on va plutôt du côté du représentationnalisme, de l'intuition de Sutskever, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons souligné qu'il était improbable qu'on puisse attribuer des contenus informationnels facilement interprétables à des nœuds dans les réseaux, donc à des vecteurs. Mais... ce n'est pas forcément un si gros problème que ça, parce que certains auteurs, notamment un philosophe, Nick Shea, ont proposé d'identifier les véhicules représentationnels non pas à des vecteurs, mais plutôt à des régions dans l'espace vectoriel, donc à ce qu'on appelle des regroupements, en anglais à des clusters. Leur hypothèse est que ce sont plutôt des régions dans l'espace des patterns d'activation du réseau qui peuvent être dotées de contenus intentionnels ayant une pertinence explicative. Shea, déjà en 2007, alors vous voyez que c'est très ancien, parce qu'en fait, comme je le disais au début de mon exposé, cette problématique, en fait, elle a émergé lorsqu'on les philosophes ont commencé à réfléchir sur les états intentionnels ou représentationnels des modèles connexionnistes. Hein. Donc c'était bien avant qu'apparaissent les modèles avec transformeurs. Voilà, Shea, dans son article en 2007, prend l'exemple d'un réseau célèbre, NetTalk, qui est entraîné à faire correspondre un texte anglais, en tout cas dans une interprétation qui semble plausible, à des représentations phonétiques de sa prononciation, et il semble que la couche cachée opère une distinction entre les voyelles et les consonnes, et on peut distinguer à cet égard deux clusters, dont on pourrait supposer qu'ils représentent ses propriétés. Donc en fait, il y a quand même on peut répondre à l'argument éliminativiste que j'ai esquissé au début de cette présentation en disant non, mais l'unité, le véhicule représentationnel, c'est pas le vecteur, c'est plutôt des clusters. Donc ça, c'est intéressant, je pense. Et cet article de Shea me paraît vraiment, vraiment important, en fait, dans l'histoire récente de la philosophie de l'IA. Est-ce qu'on peut réellement identifier des clusters dans les LLM? Il semble que oui. Donc, par exemple, dans Claude 3.5 Haiku, donc, on peut appliquer des techniques d'ingénierie inversée, semblables à celles utilisées en neurosciences, au modèle computationnel afin d'identifier de tels véhicules représentationnels. Dans une publication, alors en fait, alors vous savez, dans ce domaine, d'ailleurs, c'est un problème, hein, beaucoup des références qu'on fait ne sont pas encore publiées, en fait. Hein. Même l'article, d'ailleurs, de Collot et Millière, hein, à ma connaissance, il n'est pas publié encore. Donc, pourtant, il est beaucoup cité, mais bon. Donc, il y a dans une publication récente que je trouve intéressante parce que les exemples sont vraiment assez simples. Donc, les auteurs utilisent une technique de graphe d'attribution qui s'inspire des neurosciences afin d'identifier des traits interprétables ayant la forme de tels clusters et ils émettent des hypothèses retraçant la chaîne des étapes intermédiaires entre l'instruction en entrée et le texte produit en sortie, avec l'idée que donc on voit s'activer peut-être. Alors, est-ce que c'est des représentations mentales ? En tout cas, des états intermédiaires. Des états intermédiaires peut-être interprétables de manière fondée comme des représentations. C'est pas évident, mais peut-être. Notez que ça pourrait être aussi des états intermédiaires, mais qui n'ont pas de rôle représentationnel, en fait. Hein. C'est aussi une possibilité. Donc, dans cet article de 2025, donc, qui s'appelle « On the biology of a large language model », donc vous voyez, biologie, parce qu'on utilise des techniques, des neurosciences qu'on applique à ces modèles. Donc ici, simplement l'instruction, c'est donc quelle est la capitale de l'État qui contient Dallas ? La réponse, ça doit être Austin. Et les étapes plausibles seraient d'activer le concept de capitale, d'inférer que l'État contenant Dallas est le Texas. Et à partir de l'activation de ces concepts, en fait, de ces états internes correspondant à des représentations, l'activation de capitale et de Texas, d'activer la production de la sortie Austin. Bon. Et en fait, c'est bien ce qui semble se passer, hein. Ici, donc voilà, dans l'article, un schéma où effectivement on peut identifier des clusters qui correspondent à ces différentes étapes dans le traitement. Les auteurs eux-mêmes sont néanmoins assez prudents, hein, puisqu'ils notent que nous mettons en avant des données, que le modèle effectue un tel raisonnement, mais ce raisonnement pourrait coexister avec des raccourcis. Ce qu'ils appellent des raccourcis, c'est des simples associations qui ne font pas intervenir de telles étapes, disons, interprétables dans un vocabulaire intentionnel, comme des représentations mentales. Alors, cette idée est aujourd'hui fréquemment mise en avant par un certain nombre de chercheurs. Donc ici, l'idée, c'est que l'approche purement statistique privilégiée par le bibliotechnicisme considère que le comportement d'un modèle doit pouvoir s'expliquer uniquement par des associations au niveau des tokens entre les données d'entraînement et le contexte, mais que cette idée est mise à mal par la mise en évidence de représentations émergentes, abstraites, dans les modèles. Et alors, encore une fois, moi, ce que je pense qu'on peut conclure, et à mon avis, c'est une conclusion qui devrait pouvoir être assez, j'ai envie de dire, consensuelle, c'est qu'il y a un problème explicatif pour le bibliotechnicisme. C'est un problème explicatif. Je pense pas du tout que ce soit un argument qui réfute le bibliotechnicisme. C'est un problème explicatif, et il y a une question qui se pose, comment interpréter ces observations qu'on peut faire. Alors là, j'ai noté un certain nombre de références. En fait, ils publient chaque semaine, pratiquement, il y a des articles qui de ce type-là. Donc, par exemple, en 2025, un article qui soutient que les tokens d'entrée sont convertis en représentations abstraites sur lesquelles le modèle semble effectuer des inférences. Un article qui soutient que les vision transformers sont capables non seulement de représenter des traits visuels, mais aussi des relations abstraites, notamment la sameness, l'identité ou la différence entre des objets visuels. Un article un peu de 2025 qui soutient que, bon, qui commence par constater que lorsqu'on entraîne un modèle avec des textes dans une certaine langue, il est capable, en fait, de produire de bons résultats dans une autre langue, et que la manière, peut-être, d'expliquer ce point, ce serait l'existence de représentations linguistiques abstraites, indépendantes des langues. Vous voyez ? Donc, en fait, clairement, il y a des publications qui attribuent des propriétés intentionnelles aux modèles massifs. Et donc sur la base d'inférences à la meilleure explication, en fait, hein, il s'agit de ce que les philosophes appellent des inférences à la meilleure explication. Les meilleures manières d'expliquer, ici par exemple, les capacités plus multilinguistiques de ces modèles, C'est peut-être l'existence d'états représentationnels abstraits, encore une fois indépendants des langues. C'est une explication possible. Et ça constitue clairement un défi explicatif pour le bibliotechnicisme. Alors, peut-être je vais conclure au lieu de détailler cette illustration. Bon, dans l'article récent, juste un mot quand même, dans l'article récent de l'INSEE que j'ai cité tout à l'heure sur la biologie des large language models, de la même manière, ils soutiennent que le modèle reconnaît, arrive à effectuer, à produire certains résultats en activant des représentations abstraites indépendantes de la langue. En fait, ils obtiennent ce résultat en constatant qu'il y a des états d'activation qui sont semblables en français, en anglais et en mandarin. Donc dans des langues différentes. Et bon, c'est inattendu, parce qu'effectivement, si ce qu'on avait, c'était simplement des associations statistiques, on pourrait imaginer qu'on ne s'attende pas à obtenir des clusters qui s'activent de manière indépendante des langues. En fait. Et pourtant, c'est ce qu'on observe. Donc ici, l'idée, c'est qu'il y aurait un concept, par exemple, d'antonyme. Bon. Alors on va conclure. Donc si l'on admet qu'il est plausible que certains modèles aient des représentations abstraites, dont le sens ne se réduit pas à celui des symboles linguistiques présents dans les données d'entraînement, est-ce qu'on doit considérer que l'approche bibliotechniciste est réfutée? Alors, à mon avis, non, encore une fois, je pense que le débat va continuer probablement à exister, hein, et qu'il reste, enfin, qu'il est pertinent. Ça dépend, en fait, de la réponse qu'on va être amené à pas mal de questions. D'abord, est-ce que ces états qu'on identifie, est-ce que ce sont réellement des représentations mentales? Peut-être, peut-être pas. Si on pense que ce sont des représentations mentales, il faut arriver à montrer qu'elles représentent des éléments dans le monde extérieur. Mais ces références sont-ils attribuées uniquement pour des raisons de commodité explicative, parce que c'est une fiction utile? Ou bien est-ce qu'on peut considérer que réellement, ces modèles font émerger des représentations dotées de contenus qui ne dépendent pas finalement de l'intentionnalité des symboles sur lesquels le modèle a été entraîné? Je pense que c'est ça vraiment la question difficile et la question importante. Et malheureusement, pour le moment, donc on en est, je pense, juste au balbutiement dans ce débat, ou disons aux prémices, en tout cas, de cette discussion. Peut-être ce que je peux quand même dire, parce que ça a aussi été mentionné notamment par Daniel, c'est que plusieurs philosophes ont récemment proposé d'appliquer les théories psychosémantiques discutant philosophie de l'esprit au réseau de neurones et notamment au LLM. Donc, on a déjà cité Collot et Millière. Alors là, j'avais d'autres références. Mais oui, Capellen et Dever également. Capellen et Dever, ce sont deux philosophes qui ont écrit un livre en 2021 sur l'interprétabilité de l'IA, où ils proposent vraiment ce programme de recherche en philosophie de l'IA. C'est-à-dire le programme de dire, voilà, on va prendre au sérieux cette idée qu'il y a des représentations internes dotées de contenu, mais en essayant d'appliquer les théories du contenu qu'on trouve en philosophie. Alors, en conclusion, on voudrait quand même souligner que cette question est difficile et que appliquer ces théories est quand même, comment dire, que c'est un chemin qui est probablement semé d'embûches. Pourquoi? Parce que ce qui frappe quand même au départ, c'est les différences, plus que les similarités quand même, entre le cas des LLM et le cas de l'esprit humain. Donc les théories qui ont été développées pour expliquer les propriétés représentationnelles des esprits humains, j'ai envie de dire que la position raisonnable de base, c'est de supposer que ça va mal s'appliquer, en fait, à ces programmes, pour des raisons assez évidentes, hein, encore une fois, qui ont été déjà soulignées. Les LLM ne sont pas dotés d'interactions directes avec le monde extérieur, notamment ils n'ont pas de mécanisme sensoriel permettant de détecter des traits dans l'environnement extérieur. La plupart des théories philosophiques de l'intentionnalité ont été développées pour expliquer des détecteurs, en fait, des détecteurs de traits. Et par ailleurs, le sens des représentations abstraites émergentes pourrait dépendre en un certain sens, même si on considère qu'il ne s'y réduit pas, aux données d'entraînement. Alors, à cet égard, probablement qu'une voie de recherche est notamment C'est là une des voies qu'a exploré Élie dans ses travaux, mais une voie intéressante de recherche, c'est ce qu'on appelle en philosophie les sémantiques du rôle conceptuel. Parce qu'on pourrait imaginer que... alors, la sémantique du rôle conceptuel, c'est des théories qui essayent de comprendre le sens à partir des relations causales et ou inférentielles entre des symboles, notamment. Alors, on pourrait dire, on a exactement ça, puisqu'on a des symboles en entrée qui causent l'activation de représentations abstraites, qui va causer l'activation d'autres représentations abstraites, et puis, au final, la production de symboles. Donc, on pourrait imaginer que ces sémantiques du rôle inférentiel sont les plus appropriées. Mais... Ça soulève aussi des questions qui me paraissent assez épineuses, notamment la question de savoir s'il y a réellement des inférences ou des raisonnements. Il y a des raisons. Alors, on a vu les modèles avec les chain of thought qui sont intéressants, évidemment. Mais en même temps, enfin, moi, je serais quand même plutôt un peu sceptique ou minimaliste, disons, dans l'interprétation de ces modèles, parce que, comme je le suggérais tout à l'heure dans la discussion, le problème, c'est que les étapes intermédiaires n'ont pas toujours une grande relation avec l'output. Alors, ok, l'output est amélioré, mais est-ce que c'est réellement parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à des inférences? Parce que notez que pour une sémantique du rôle inférentiel, peut-être que ce serait bien d'abord de s'assurer qu'il y ait des inférences. S'il n'y a pas d'inférence au départ, ça risque de quand même... fermer en quelque sorte cette avenue de recherche qui est pourtant probablement une des plus pertinentes. Donc notre conclusion serait un petit peu modeste en fait, hein, c'est-à-dire que il y a un débat entre une interprétation très modeste qui est l'interprétation bibliotechniciste, une interprétation plus ambitieuse qui est l'interprétation représentationnaliste. Le bibliotechnicisme se heurte à des difficultés explicatives, mais en fait, probablement le représentationnalisme aussi, les explications qui sont avancées, et d'ailleurs il y a des articles qui sont aussi pessimistes, hein, il y a des articles optimistes, mais les technologies utilisées se heurtent aussi à toutes sortes de limites, donc la conclusion sera relativement modeste. En même temps, c'est intéressant, parce que c'est une voie qui est ouverte, certainement. Voilà, on va s'arrêter là. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.